Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre revue de 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction. Et c'est en compagnie de Yann Mince du magazine Alternative Économique que nous allons revivre les grands moments de l'actualité. Dans quelques minutes, nous partirons pour Mossoul, Bogota, Londres par exemple. Après le flash, rendez-vous avec l'actualité africaine et française aussi, avec les primaires à droite. Une semaine d'actualité à retrouver bien sûr sur notre site rfi.fr. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver à ce micro en cette période où l'actualité est plus que jamais dense et multiple. La dernière fois que nous nous sommes vus dans cette émission, c'était avant l'élection présidentielle aux États-Unis. Et il y a donc cette élection de Donald Trump. Il constitue en ce moment son équipe. Et il faut noter, il faut quand même s'y arrêter, je pense que ça vous intéresse aussi, que Hillary Clinton, au dernier comptage, a 2 millions de voix d'avance sur lui.
Oui, mais c'est le système électoral américain qui est un système indirect. Les électeurs dans chaque État votent pour des grands électeurs. Bon, ça, c'est déjà un filtre, je dirais. Mais surtout, dans la quasi-totalité des États, sauf deux, je crois, celui qui gagne rafle l'ensemble des grands électeurs de l'État. C'est pas proportionnel. Il a pas 52% des grands électeurs d'État. Il a tous les électeurs d'État, sauf dans deux, je crois, le Maine et un autre. Ce qui veut dire que c'est un scrutin indirect extrêmement brutal. Et on a effectivement, je crois que c'est au moins la deuxième fois, sinon plus, qu'on appelle le vote populaire, c'est-à-dire la quantité d'individus qui votent, qui est contraire au comptage des grands électeurs. Donc effectivement, Trump va être président avec une minorité des voix de son pays.
Alors je crois que c'est la quatrième fois. La dernière fois, c'était en 2000 avec
Al Gore et Bush.
Sauf que là, l'écart est tellement important que certains commencent à parler de recomptage, enfin, à demander des recomptages.
Je pense que le problème, ce ne sera pas le recomptage. Le problème, c'est qu'il faudrait que les États-Unis changent le système électoral, changent leur constitution. Je crois que c'est une compétence, non pas de l'État fédéral, mais des États fédérés, la façon dont on décide du mode électoral, etc. C'est toujours très compliqué de changer une constitution en général, et notamment aux États-Unis, qui n'aiment pas changer de constitution, qui ont une constitution ancienne, qui est relativement courte. Donc ça me paraît difficile, même si ce serait probablement démocratiquement plus juste et plus sûr et plus durable qu'effectivement le vote populaire corresponde à celui des grands électeurs.
Alors je suis sûr, Yann, que le personnage de Donald Trump vous intéresse.
C'est un personnage.
Donald Trump et sa famille. Pardon.
C'est un personnage, comment dire, fascinant, mais au sens effrayant du terme. C'est forcément un individu hors norme. Ce qui me frappe, en tout cas pour rester sur le terrain strictement politique, c'est que, notamment en politique étrangère, on a l'impression qu'il a improvisé ses propositions au fur et à mesure de la campagne, des débats, etc. C'est quelqu'un qui a bien compris une chose, c'est que dans le paysage médiatique actuel dans lequel les réseaux sociaux sont si influents et dans lequel la publicité joue un rôle très important dans le financement des médias, les médias ont besoin de publicité. Pour ça, il faut du clic, c'est-à-dire il faut que les gens cliquent sur la page, sur les médias électroniques, et ils font donc du scandale, du buzz. Et Donald Trump a donné du buzz aux médias américains qui, du coup, ont beaucoup plus couvert sa campagne sans qu'il soit obligé de financer des publicités négatives, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire pour critiquer son adversaire. Donc il a eu une couverture médiatique. Maintenant, le problème, c'est qu'il se cogne au réel. Après avoir improvisé ses propositions au fil de ses inspirations ou de sa démagogie, maintenant il va se cogner au mur du réel, et c'est là qu'on va voir jusqu'où il va. Et on voit déjà que sur un certain nombre de sujets, il commence à mettre de l'eau dans son vin, sinon à reculer, mais pas sur tous.
C'est l'épreuve des faits. Donc on va continuer à parler de l'actualité dans cette émission, évidemment, et parler tout de suite maintenant de la situation en Syrie, à Alep, où les combats font rage. Écoutons le représentant de la France au Conseil de sécurité, François Delattre. Écoutez ce qu'il disait ces derniers jours.
Selon les informations en notre possession, des centaines de personnes, dont de nombreux enfants, ont été tués depuis mardi dernier dans des bombardements ou des feux d'artillerie ininterrompus, au point que les équipes de sauvetage sont dans l'incapacité d'intervenir pour extraire les blessés des décombres. Aucun convoi n'a pu atteindre l'est de la ville depuis juillet dernier. Les réserves d'aide humanitaire conservées dans les entrepôts d'Alep Ouest sont à présent épuisées. La France demande une nouvelle fois à ceux des membres de ce Conseil qui sont engagés dans les combats et qui ont de l'influence sur le régime de rompre l'engrenage en cours, dont le legs sera un pays dévasté, promis à des décennies d'instabilité, de violence et de terrorisme.
Nous reparlerons de la Syrie tout à l'heure. Pour le moment, Yann, partons pour l'Irak. À Mossoul, isolé désormais des territoires occupés par l'organisation de l'État islamique et où les déplacés sont de plus en plus nombreux. Écoutons par exemple ce reportage de notre envoyé spécial, Oriane Verdier.
Dans une maison de Gogjali, banlieue de Mossoul, les forces spéciales irakiennes organisent le premier accueil des habitants en fuite. Fatima vient d'arriver avec 10 autres membres de sa famille. La vieille dame a les pieds couverts de poussière.
Nous avons fui l'État islamique. Il y avait beaucoup de bombardements. Notre porte était cassée, nos vitres aussi, notre voiture. Alors nous sommes partis à pied de maison en maison. Cela nous a pris 4 jours. Maintenant, nous voulons aller dans un camp de déplacés. Mais mon fils a perdu sa carte d'identité. Sans elle, il ne peut pas passer.
En effet, afin d'être conduits dans les camps, ces civils doivent prouver qu'ils n'ont pas collaboré avec l'organisation État islamique. Le force spécial Ahmed s'occupe de ce filtrage.
Quand les familles arrivent, nous leur demandons leur carte d'identité et nous vérifions s'ils ne sont pas dans nos listes. Dans nos ordinateurs, nous rentrons les noms de toutes les personnes ayant collaboré avec Daesh. Les habitants du quartier nous les donnent. Ceux qui ont été victimes des djihadistes savent qui les a vendus. Si une personne est dans notre liste, nous la livrons au général. Sinon, ils peuvent entrer dans les camps.
Quelques minutes plus tard, Fatima monte finalement dans un grand camion Ben, entassé et enfermé avec une 50aine d'autres personnes. Direction le Kurdistan irakien, où les autorités questionneront à nouveau sa culpabilité.
Une semaine d'actualité, Yann Mince. Mossoul, peu à peu, voit s'approcher les troupes de la coalition, mais l'État islamique, les djihadistes résistent.
Les djihadistes résistent, en tout cas ceux qui sont encore dans la ville, ceux qui n'ont pas fui vers la Syrie, puisque jusqu'à il y a quelques jours, ils pouvaient encore fuir par une ville qui s'appelle Tal Afar, qui a été prise non pas par l'armée irakienne, c'est important, mais par des milices chiites, dont on a peur qu'elles se vengent sur la population qui est supposée avoir soutenu l'État islamique, et supposée, ou en tout cas pour une partie d'entre elles, s'est livrée à des exactions contre des chiites de la ville dans le passé, même avant l'arrivée de l'État islamique. Donc effectivement, ces combattants, ils sont aujourd'hui encerclés. Ce sont des combattants qui ont eu le temps de piéger la ville. Jusqu'à maintenant, l'armée irakienne, qui s'est approchée par les faubourgs, n'est pas rentrée dans le centre-ville ancien, là où il y a des rues étroites, etc., où le combat sera probablement plus compliqué que ça ne l'a été le cas jusqu'à maintenant, même si évidemment ce sont des combats très durs.
Alors Yann, reparlons de la Syrie en partant pour New York. À nouveau, c'est un chef des opérations de l'ONU quasiment désespéré qui est intervenu devant le Conseil de sécurité avec François Delattre, qu'on entendait tout à l'heure. Correspondance mardi de Marie Bourreau.
Tous les mois, inlassablement, Stephen O'Brien informe le Conseil de sécurité de la situation humanitaire en Syrie, mais les mots commencent à lui manquer.
Monsieur le Président, je suis à bout en tant qu'être humain.
La situation qu'il décrit dans les quartiers rebelles d'Alep est terrifiante.
Les civils sont isolés, affamés, bombardés et privés d'aide médicale et d'assistance humanitaire afin de les forcer à se soumettre ou à fuir. C'est une tactique délibérée et cruelle.
En 6 mois, le nombre de personnes assiégées par les forces du régime de Bachar al-Assad a doublé pour atteindre près d'1 million de personnes. Le chef des opérations humanitaires pointe la responsabilité du Conseil.
Ceux qui maintiennent ces sièges savent maintenant que ce Conseil est apparemment incapable ou réticent à y mettre un terme.
Major General Jamil Hassan, Brigadier General Abdul Salam Fajr Mahmoud.
Et l'ambassadrice américaine Samantha Power a beau égrener théâtralement le nom de généraux coupables, selon les États-Unis, de crimes contre les civils syriens. Tout le monde sait que Washington est maintenant en service minimum sur le dossier syrien en attendant la nouvelle administration.
Une semaine d'actualité. Alors cette fois, il faut s'arrêter en Syrie, à Alep, où les combats font rage.
Oui, parce
dans l'indifférence générale.
L'indifférence, je dirais pas différence, dans la volonté de ne pas agir contre la Russie. Parce qu'en fait, à partir du moment où, en septembre 2015, la Russie ne s'est pas contentée de soutenir de loin ce qu'elle faisait déjà depuis longtemps Bachar al-Assad, mais à partir du moment où elle est arrivée sur le terrain direct, où elle est devenue un belligérant, et notamment par son aviation interposée, si je puis dire, ou ses missiles, intervenir pour soutenir Faire quelque chose militairement, ça veut dire pour les Américains, puisque c'est clairement eux qui seraient impliqués, ça veut dire de rentrer au contact, en affrontement avec les forces russes. Et ça, ça évoque forcément, et on le voit dans les cercles de réflexion stratégique américains, ça évoque forcément l'idée d'un risque de guerre entre deux grandes puissances nucléaires, les deux plus grandes puissances nucléaires de la planète. Je ne crois pas personnellement qu'on en arrivera à ces extrémités, mais tout le monde a peur d'un dérapage. Et beaucoup de gens ont en mémoire la crise de Cuba en 62, où effectivement on était à un cheveu, je dirais, d'un affrontement entre les grandes puissances. C'était une autre époque, c'était pas les mêmes présidents, c'était pas la même situation, mais quand même, tout le monde a très peur d'une confrontation d'un avion américain qui abat un avion russe, par exemple, ou d'un missile américain qui abat un avion russe. Et ça, tout le monde en a très peur, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va laisser globalement, quand je dis on, les pays occidentaux, qui ne veulent pas soutenir les Syriens au point de prendre le risque d'un affrontement avec la Russie, eh bien, on va laisser Poutine et Assad faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire écraser Alep comme Poutine a écrasé Grozny en Tchétchénie il y a quelques années. Il a rasé et c'est pas grave. Ensuite, il reconstruit, il met du béton et voilà. Ça, c'est ça sa conception de la guerre, c'est on écrase, on détruit et ensuite peut-être un jour on reconstruira.
Est-ce qui veut dire que Assad est là pour de longues années encore?
De longues années, je ne sais pas, mais
Le problème du règlement, quand la guerre, on espère que cette guerre civile s'arrêtera, du règlement de paix, avec ou sans Assad.
Je suis frappé par le fait que depuis le début du conflit syrien, le mantra diplomatique, et qui est un mantra, je dirais, de bonne intention, c'est de dire il n'y a pas de solution militaire au conflit syrien. C'est vrai si on pense qu'une solution, c'est quelque chose de durable, que c'est une solution politique, où tout le monde vit en harmonie, ou plus ou moins en harmonie, on trouve un consensus. Je crois qu'il y a une solution militaire, hélas, au conflit syrien et que c'est Poutine qui est en train de l'administrer en disant « je cogne fort, personne ne m'empêche et donc mon allié Bachar el-Assad finira par rester au pouvoir ». Est-ce qu'il le gardera ensuite au pouvoir? Est-ce que Assad pourra rester ensuite au pouvoir? Je ne sais pas, mais en tout cas le régime syrien, à défaut de Bachar el-Assad lui-même, le régime syrien, Poutine a décidé d'investir dessus pour des tas de raisons et il fait ce qu'il faut pour et personne n'est prêt à aller au contact, à l'affrontement avec la Russie pour ça.
Et pendant ce temps-là, l'ONU compte les points, si je veux dire.
L'ONU fait ce qu'elle peut, je dirais.
J'ai entendu le témoignage du responsable des
opérations humanitaires. Bien sûr, je comprends le désespoir de M. O'Brien, je comprends le désespoir. Une des choses qu'ont fait les avions russes ces derniers jours, c'est de détruire les derniers hôpitaux d'Alep en zone rebelle, de les détruire. Et moi, je lisais des articles écrits par des journalistes, qu'on appelle journalistes citoyens, depuis Alep, qui interviewaient des médecins, qui disaient maintenant, faute de médicaments, on ampute. Parce qu'on n'en a pas de quoi, on n'a pas de quoi soigner les gens. C'est dramatique, mais c'est clairement le choix de Poutine, c'est de dire je rase, je terrorise, et en frappant les hôpitaux, il est évident qu'on met la population à genoux, parce qu'être bombardé, c'est une chose, même pas pouvoir se soigner, même pas pouvoir amener ses enfants ou ses parents dans un hôpital quand ils sont blessés, c'est évidemment une tactique de terreur, c'est une tactique de destruction psychologique des gens pour qu'ils cèdent.
Sept jours dans le monde.
Et nous partons pour la Colombie maintenant, Yann, cette fois où un nouvel accord de paix a été signé jeudi entre le gouvernement et les FARC. Mais cette fois, les Colombiens ne pourront pas donner leur avis. Correspondance jeudi de Marie-Ève De Toff.
Le président Santos ne veut plus demander l'avis des électeurs. Il a décidé de faire ratifier le nouvel accord de paix par le Congrès. Tollé de la droite dure qui exige un nouveau référendum, alors qu'elle n'en voulait pas la première fois. Explication de Magdalena Correa, professeure de droit constitutionnel.
C'est qu'en principe que les gens pensent que la ratification par les congrès soit moins légitime que le référendum, parce que le référendum c'est démocratie directe. Mais juridiquement, il n'y a pas une obligation. Les congrès peuvent le faire, et peuvent le faire avec légitimité, certainement oui.
L'accord de paix sera donc présenté mardi au Sénat et à la Chambre des députés mercredi, mais le parti de l'ex-président Alvaro Uribe ne l'entend pas ainsi. Il exige ni plus ni moins que la révocation du congrès pour usurpation de fonction. Magdalena Correa.
Ça c'est un point de vue, mais il n'y a pas des raisons constitutionnelles, juridiques, ni même politiques pour révoquer. Ça n'a pas de sens. Ce que le parti uribiste doit faire, c'est aller au débat au congrès pour argumenter, mais pas chercher à discréditer les congrès.
Paradoxe de ce premier jour de paix, le débat n'oppose pas les FARC qui ont encore leurs armes au monde politique, il déchire la classe politique.
Faisons escale à Londres maintenant, Yann, où cette semaine le gouvernement de Theresa May a présenté son projet de budget, le premier de l'après-Brexit. Correspondance de Muriel Delcroix.
La première ministre Theresa May aurait bien aimé faire des cadeaux aux ménages qui, selon son expression, parviennent tout juste à boucler les fins de mois. Mais son chancelier de l'échiquier, Philip Hammond, dit ne pas en avoir les moyens. Londres a abaissé sa prévision de croissance à 1,4% pour 2017 au lieu des 2,2% sur lesquels tablait le pays jusqu'à présent. Philip Hammond a donc exclu toute mesure spectaculaire dans un contexte d'incertitude créé par le Brexit.
La décision du Brexit va changer le cours de l'histoire britannique et elle rend plus urgente que jamais la nécessité de combattre les faiblesses de notre économie à long terme, notamment le problème de la productivité, l'immobilier, le déséquilibre en termes de croissance et de prospérité qui affecte notre pays.
Le ministre des Finances a néanmoins assoupli quelque peu l'austérité en annonçant une hausse du salaire minimum qui passera à environ 8,8 euros de l'heure à partir d'avril prochain, soit une hausse de 4%. La réforme des prestations sociales va aussi être adoucie pour quelque 3 millions de ménages. Et comme le souhaite Theresa May, l'État va de nouveau investir pour rénover le réseau routier et développer l'Internet à haut débit. Enfin, afin de soutenir l'activité et l'attractivité du pays, le gouvernement a confirmé une baisse du taux d'imposition des sociétés de 20 à 17%, le plus faible des pays du G20.
Une semaine d'actualité continue, merci de votre fidélité. Yann Mince, décidément, le mot référendum est vraiment dans l'actualité. Hein. C'est qu'il s'agisse de la Colombie ou d'autres pays.
Oui, tout à fait.
Et cette fois, en Colombie, pas de référendum, semble-t-il.
Moi, je suis très réservé face au référendum. Ouais. C'est vrai que ça a, comment dire, les apparences de la démocratie la plus directe. La question, elle est compliquée parce que sur un accord de paix, je comprends qu'on puisse demander leur avis à l'ensemble des citoyens.
Ce qui était le cas
de paix
en Colombie, la première fois. Ouais.
C'était évidemment très important. Le problème, c'est tout est très lié à la participation. Qui va voter, qui ne va pas voter, qui peut voter, qui ne peut pas voter. Si j'ai bien compris, dans le référendum qui a lieu en Colombie et qui donc a rejeté l'accord de paix, c'était surtout les gens des villes qui ont voté, qui étaient donc les plus éloignés du front. En revanche, ceux qui, dans les campagnes, subissaient le plus directement la guerre et qui avaient probablement le plus envie de la paix, eux ont moins voté. Alors, est-ce qu'ils ont moins voté parce qu'ils en ont été empêchés? Est-ce qu'ils ont moins voté parce qu'ils étaient plus compliqués, ils étaient moins motivés? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un problème très compliqué, le référendum. Je serais spontanément de plus en plus réticent face au référendum.
C'est vrai qu'on répond rarement à la question posée par un référendum. Il y a souvent des arrière-pensées.
Sur l'accord de paix, on peut se poser la question parce qu'il y avait une seule question, elle était relativement claire. Je ne sais pas qui avait lu, en revanche, les accords exactement. On demande aux gens de se prononcer sur des choses que certains prennent le temps de lire en détail et d'autres pas. Ou pas du tout, ou un peu, etc. Donc forcément, parfois c'est de la seconde main. Et c'est ce qu'on entend dire de la part de son entourage qui emporte votre décision et l'entourage est plus ou moins fiable et parfois pas tant que ça.
Alors la Grande-Bretagne, pour terminer cette première partie d'une semaine d'actualité et ce budget difficile, premier budget de l'après-Brexit. Brexit de Theresa May.
Oui, difficile. En même temps, bon, c'est vrai que le ministre des Finances a annoncé un taux de croissance qui était plus bas que ce qui avait été prévu, mais qui avait été prévu, si mes souvenirs sont bons, avant la décision du référendum. Donc effectivement, les prévisions n'avaient pas intégré l'effet référendum. Pour l'instant, on ne peut pas dire que l'économie britannique se soit effondrée depuis le Brexit. C'est pas le cas. En revanche, ce qui me frappe beaucoup, et ça fera peut-être un lien avec ce qu'on dira sur la primaire de droite, c'est que les conservateurs britanniques, en la personne de Theresa May, qui, il faut le rappeler, n'était pas favorable au Brexit. Ouais. Là, le gouvernement de Theresa May propose un budget qui est un budget très peu libéral au sens thatchérien du terme. Elle revient même plutôt en arrière. Des dépenses d'infrastructures, ça veut dire des dépenses dans le budget, ça veut dire donc un accroissement de la dépense publique, un SMIC qui monte, des prestations sociales qui sont aménagées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Theresa May a compris qu'une partie de la population britannique la plus défavorisée avait voté non pour montrer, au moment du référendum, pour montrer sa colère sur quelque chose qui n'avait pas forcément un lien direct avec l'Union européenne, même si la question des migrations a joué un rôle, et qu'il fallait peut-être s'occuper de ces gens-là, et que le libéralisme le plus fou n'était pas la meilleure façon de s'occuper des gens les plus démunis.
Ça me dit quelque chose. Yann Mince, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde, et on se retrouve dans 3 minutes, on parlera des primaires à droite. Effectivement, à tout de suite.
L'atelier des
Merci pour toutes ces informations. Retour à notre revue de 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction et notre invité Yann Mince du magazine Alternative Économique. Dans un instant, nous partirons pour l'Afrique, bien sûr. Rendez-vous également avec vos messages.
une semaine d'actualité.
Et commençons, Yann Mince, avec les primaires à droite en France. Il y avait jeudi un débat entre les finalistes du premier tour, François Fillon et Alain Juppé, Julien Chavannes.
Ces attaques ont fait monter la pression ces derniers jours. Sur le plateau, à moins d'un mètre de son adversaire, Alain Juppé a commencé par faire tomber la température.
François, nous nous connaissons depuis bien longtemps et tu sais que j'ai toujours eu pour toi de l'amitié et de l'estime. Et je n'ai pas changé d'avis.
Plus détendu et moins crispé, le maire de Bordeaux tutoie son voisin, l'appelle par son prénom. François Fillon l'ignore jusqu'à cet échange musclé sur le temps de travail dans la fonction publique.
On ne fera pas une réforme consistant à proposer aux fonctionnaires de travailler 39 heures, 37 heures.
C'est un point fondamental, parce que ça veut dire en fait qu'Alain Juppé ne veut pas vraiment changer les choses. Moi, je n'accepte pas qu'on dise « à l'avance, c'est impossible ».
Autre passe d'armes attendue sur l'avortement. Mais là encore, François Fillon repousse l'assaut sans être mis en difficulté. Il se permet même de sermonner Alain Juppé quand il lui reproche son silence sur les rumeurs malveillantes lancées contre lui sur Internet.
Pour pas exagérer non plus, quand je me fais traiter d'homophobe tous les matins, je t'ai pas entendu non plus prendre la parole pour assurer ma défense.
Pas d'affrontement ni de pugilat hier soir, plutôt une explication entre un François Fillon qui n'avait aucun intérêt à prendre des risques et un Alain Juppé qui aura manqué de force dans ses attaques. Un débat digne mais qui ne devrait pas faire bouger les lignes à deux jours du second tour.
Nous verrons ça dimanche. Et même si les deux candidats appartiennent à la même famille politique, le Parti des Républicains, il y a donc entre eux quelques divergences, on le constate, notamment sur le plan économique. Alors sur ces différences, Pierre Firsion.
Des différences d'abord sur les sujets sociétaux. François Fillon apparaît sur ce point comme l'un des tenants d'une ligne très conservatrice. Soutenu par la Manif pour tous, il propose ainsi de réécrire en partie la loi Taubira, non pas sur le mariage gay, mais sur l'adoption plénière qu'il souhaite interdire pour les couples homosexuels. Le député de Paris a également pour projet de revoir les programmes d'histoire avec l'idée de les concevoir comme un récit national pour, explique-t-il, redonner aux enfants la confiance dans notre patrie. François Fillon qui entend également rétablir l'universalité des allocations familiales. Des idées en complet décalage avec un Alain Juppé plus progressiste sur ces sujets-là. Le maire de Bordeaux apparaît également moins radical sur le plan économique. Si l'on tombe mettre fin aux 35 heures et supprimer l'ISF, François Fillon propose lui une cure d'austérité beaucoup plus franche. 110 milliards d'économies en 5 ans, la suppression de 500 000 emplois publics, le report de l'âge de la retraite à 65 ans en 2022 ou encore l'harmonisation des régimes de retraite. Bref, une potion beaucoup plus libérale que celle de son adversaire. François Fillon et Alain Juppé qui s'opposent également sur l'international. Ainsi, le maire de Bordeaux ne goûte guère le positionnement pro-russe du député de Paris.
Alors, il faut s'arrêter, Yann Mince, sur ces primaires. Donc, je rappelle que les électeurs de la droite et du centre sont invités à voter demain pour choisir soit François Fillon, soit Alain Juppé. Comment avez-vous vécu ce débat que vous avez regardé jeudi soir ?
Je l'ai écouté, en fait. Je l'ai écouté à la radio. Je ne l'ai pas regardé.
Encore mieux, on est plus attentif encore.
On est plus attentif et on est moins influencé par la mine de l'un ou de l'autre. J'ai vu quelques images télé ensuite et j'ai trouvé que Alain Juppé est un peu plus âgé et ça se voit et ça peut être un handicap pour lui. En ce qui concerne le style, je pense que François Fillon a été plus serein. Et ce qui est serein pour les gens qui sont sereins, c'est plutôt rassurant pour ceux qui veulent un président de la République. Il avait l'air serein et déterminé, ce qui est plutôt des qualités dans le système très monarchique présidentiel français, où un homme est censé assumer
dans la monarchie républicaine dont parlait du Berger.
Absolument. Et on est censé avoir quelqu'un qui sait tout, qui résout tout, etc. Donc effectivement, du coup, quand on doit choisir quelqu'un qui est censé avoir les solutions à tout, on prend quelqu'un qui est rassurant. Et forcément, Alain Juppé était un peu plus fébrile, parce qu'il forcément il est en difficulté. Et du coup, ça l'a peut-être rendu moins rassurant pour les électeurs. En revanche, sur le plan du fond, j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait deux méthodes. Et une méthode qui est, je ne sais pas s'il faut employer le terme de brutal, mais en tout cas, il y a cette idée chez François Fillon que la situation est tellement désespérée qu'il faut un choc. Comme on dit, un choc de simplification pour l'administration. Là, il faut un choc de réformes, qui sont des réformes très libérales, notamment en matière de santé, en matière de droit du travail. Il s'agit quand même de privatiser dans certains cas.
On a beaucoup discuté hier, vendredi, en France, de cette question de la santé et des remboursements ou pas de la sécurité sociale pour la consultation d'un médecin, par exemple.
Je me demande si François Fillon se souvient qu'il a eu des enfants et que les enfants petits, ça a souvent des petites maladies qui ne sont pas des maladies très graves, mais qui, au bout d'un moment, dans le portefeuille d'une famille, peuvent représenter beaucoup d'argent. Effectivement, si on en est réduit à ne pouvoir faire rembourser ça que par sa mutuelle, ça crée des inégalités très fortes parce que les mutuelles sont très inégales en fonction de son niveau de salaire, etc.
Et ça veut dire que le prix des mutuelles augmentera forcément.
Voilà. Donc, effectivement, il y a tout un tas de... Sur le fond, je dirais que François Fillon a un programme beaucoup plus libéral, que ça s'est vu. Simplement, comme il l'a dit, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, plus que Juppé, qui, curieusement, a un problème libéral plus progressiste, comme on dirait. En tout cas, moins libéral. N'allons pas jusqu'à progressiste, ouais. Moins libéral. Il l'a dit de façon beaucoup plus fébrile. Je pense que ça a desservi probablement à Juppé. Ce qu'il a dit sur le fond a été moins entendu à cause de la façon dont il le disait. Et je pense qu'à l'inverse, chez Fillon, peut-être que la brutalité de ce qu'il propose, enfin en tout cas la radicalité de ce qu'il propose, a été compensée dans l'esprit des auditeurs par le fait qu'il a dit de façon très calme.
Alors parlons un petit peu du monde, de l'Europe, enfin du contexte dans lequel se déroulent ces primaires. Vous parliez de la Grande-Bretagne tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Ce programme est un peu à contre-courant quand même, hein, économique, s'entend.
Oui, c'est-à-dire qu'on...
On parle plus de relance aujourd'hui.
Oui, alors là,
même Trump.
Même Trump, oui, bien sûr. Trump veut faire par exemple, des dépenses d'infrastructures extrêmement importantes. Alors, c'est vrai que les États-Unis en ont besoin. Tout le monde convient que les routes, les ports, oui, etc., aux États-Unis sont dans un état lamentable. On se souvient de Katrina et des conséquences qui avaient eu lieu au moment du drame de Katrina parce qu'une partie des infrastructures n'était pas en état. La difficulté de Trump, c'est de savoir où il prend l'argent pour faire tout ça avec un parti républicain qui, lui, ne veut pas de déficit budgétaire, ne veut surtout pas creuser la dette, etc. Ce qui me frappe surtout, c'est que tout le monde dit, voilà, les partis populistes se nourrissent du désespoir des classes populaires, lesquelles classes populaires ont été victimes de la mondialisation et d'un libéralisme sauvage qui n'a pas été compensé pour elles par des plans. Or, justement, ce que propose François Fillon, c'est d'accroître le libéralisme, donc de baisser la protection pour les catégories populaires. Donc, moi, je trouve que c'est à contre-courant de ce qui semblerait... ce qu'on semblerait devoir faire pour justement limiter le populisme. Alors lui, son argument, c'est de dire oui, mais il faut assouplir, il faut libéraliser parce que ça va provoquer de la croissance. C'est la politique de l'offre. Pour l'instant, je trouve qu'on a du mal à en voir dans quelconque endroit. Et j'étais très frappé, par exemple, quand François Fillon parle des conditions de licenciement en France en disant que c'est beaucoup plus dur qu'ailleurs. Non, c'est pas plus difficile de licencier quelqu'un en France en CDI qu'en Allemagne, par exemple.
Il y a aussi des divergences en matière de politique étrangère entre les deux. Hein. Alors, ce qui a beaucoup marqué, enfin, les observateurs, comme on dit, c'est l'apparition de Vladimir Poutine faisant l'éloge de François Fillon cette semaine. Je ne sais pas si c'est pour François Fillon, d'ailleurs, une aide.
Ça dépend auprès de qui. Ceux qui pensent que la Russie est un grand pays qu'il ne faut pas brusquer parce que sinon elle risque de devenir encore plus désagréable qu'elle n'est, voudront ménager la Russie, ils seront d'accord avec Fillon. Ceux qui pensent comme moi que la Russie a un dessein de retour sur la scène internationale, de redevenir une puissance crainte et respectée à tout prix, ceux-là sont moins confiants dans le fait que en faisant des papouilles à Poutine, on va l'assouplir. Je n'y crois pas du tout.
Des papouilles à Poutine.
Voilà. Ouais, la différence, c'est aussi que Alain Juppé a été ministre des Affaires étrangères. Oui. Ce que n'a pas été François Fillon. François Fillon a été Premier ministre en même temps que Poutine, par le fait de cette alternance curieuse que Poutine avait instaurée avec Medvedev. Donc, ils ont été Premier ministre ensemble. Ça leur a donné probablement des contacts. Mais je crois que c'est plus important que ça. François Fillon a une conception gaulliste un peu caricaturale. Dans le sens où, pour ne pas être taxé de pro-américanisme, même s'il a dit du bien des Américains hier dans le débat, du coup, il faut ménager absolument ou établir une espèce d'équilibre un peu curieux avec la Russie. Or, la Russie de Poutine, c'est pas quelqu'un avec qui on peut faire grand-chose, je pense.
Une semaine d'actualité.
Et bien sûr, Yann, nous partons pour l'Afrique maintenant et nous allons parler du rôle de l'Église catholique sur le continent aujourd'hui et hier aussi. Pour aujourd'hui, prenons le cas du Burundi, où le président de l'Assemblée nationale a lancé un appel aux autorités catholiques. Bujumbura lundi, Esdras Ndikumana.
Cette fois, l'Église catholique n'est plus taxée de soutenir les insurgés burundais. Le président de l'Assemblée nationale a demandé devant des milliers de fidèles rassemblés à l'église du Mont-Sion à Bujumbura son aide en vue de ramener de meilleurs sentiments les pays donateurs. mais il a surtout demandé à l'Église catholique d'appuyer le pouvoir burundais en vue de ramener au pays ceux qui ont fui en exil. Pascal Nyabenda.
Je demande qu'on se mette ensemble pour aider nos frères qui ont fui en exil et qui n'ont rien à se reprocher. Il faut que l'Église catholique collabore avec les élus du peuple et le gouvernement pour les pousser à rentrer.
Et d'assurer que dans un tel cas, les premiers réfugiés devraient être rentrés pour Noël. C'est le président de la conférence des évêques catholiques du Burundi qui s'est chargé de lui répondre. Une feinte de ne recevoir emballée dans le langage imagé de l'Église. Pourquoi s'est demandé Monseigneur Gervais Manshimiyubusa, les réfugiés ont peur de regagner le Burundi? Sa réponse.
On constate malheureusement qu'il y a encore beaucoup de gens qui considèrent leurs adversaires comme le mal absolu. Et tant que nous avons cette maladie, c'est difficile, pour ne pas dire impossible, que les protagonistes de la crise s'asseyent ensemble pour remettre les choses en ordre.
Il s'agit clairement d'un clin d'œil au gouvernement burundais qui refuse jusqu'ici de prendre langue avec son opposition, mais pas sûr que la voix de l'Église soit entendue.
Alors l'Église catholique d'hier en Afrique, toujours au Rwanda cette fois, Yann Mince, elle a demandé pardon dimanche pour tous les chrétiens impliqués dans le génocide en 1994. Reportage lundi de Stéphanie Aglietti à Kigali.
L'église en briques rouges de la Sainte Famille à Kigali est l'un des nombreux lieux de culte catholique du pays dans lesquels des Tutsis ont été massacrés pendant le génocide, parfois avec la complicité de religieux. Sur le parvis, Emmanuel, un fidèle, estime que la demande de pardon de l'église catholique peut permettre à la population d'aller de l'avant.
Pour moi, c'est pour la réconciliation. Si vous avez commis les fautes, vous devez demander pardon. C'est pourquoi ils ont demandé pardon pour tout le monde qui ont fait ça.
C'est bien, mais pourquoi l'église a-t-elle attendu si longtemps, lance une femme en centre-ville. L'église catholique du Rwanda a demandé pardon pour la responsabilité de certains individus dans le génocide et non pour l'église en tant qu'institution. C'est normal, estime David, un fonctionnaire.
Vu que l'église catholique avant le génocide avait des prêtres qui étaient Tutsis et dont le trois quarts ont disparu pendant le génocide, d'une façon ou d'une autre, l'église comme institution peut être comptabilisée parmi les victimes. C'est dommage que en fait, les dirigeants de l'église catholique à ce moment-là auraient pu faire quelque chose. Mais moi, je considère qu'un individu, bien qu'il a de grandes responsabilités envers l'institution, il n'est pas l'institution.
Reste que depuis la fin du génocide, l'Église catholique a largement perdu de son prestige en raison de son rôle controversé. Nombre de Rwandais se sont depuis tournés vers les nombreuses églises pentecôtistes dites de réveil qui pullulent ces dernières années au Rwanda.
Et le gouvernement rwandais a jugé inadéquate, je cite, les excuses présentées par l'Église catholique et attend les excuses du Vatican, voire du pape directement. Il faut aussi noter, Yann, dans l'actualité africaine, la situation sociale au Tchad, où le secteur public tourne au ralenti depuis 3 mois, avec des retards de paiement des fonctionnaires, et au Burkina Faso, avec une grève dans le secteur de la santé. Il faut s'arrêter un instant sur le rôle de l'Église catholique aujourd'hui en Afrique.
Oui, comme le disait Stéphanie Aglietti à la fin de son reportage, c'est vrai que c'est un rôle qui est en partie, sinon menacé, mais disons diminué par le succès des églises pentecôtistes, évangéliques, de réveil, enfin il y en a beaucoup, oui. C'est très différent effectivement à la fois sur le plan de la croyance, sur le plan des styles aussi, parce que on voit ce qu'on appelle les méga churches, c'est-à-dire ces églises gigantesques qu'on voit dans des pays comme le Nigeria, ça fait des photos très impressionnantes, j'en ai vu une encore cette semaine. Et ce sont des églises très éclatées, très séparées, avec chacun son prédicateur un peu gourou. On n'est pas du tout dans cette espèce d'institution un peu pyramidale, nationale, avec les diocèses que représente l'Église catholique. Par ailleurs, l'Église catholique est forcément en partie, et le gouvernement rwandais n'a pas manqué de le signaler dans ses critiques après la déclaration, est associée dans certains cas avec la colonisation, forcément, puisque une partie des catholiques africains, bien entendu, sont devenus parce qu'il y a eu la colonisation et que les missionnaires sont arrivés avec les colons. Il reste que je trouve que le gouvernement burundais a quand même un culot assez phénoménal de demander à l'Église de faire revenir, de convaincre les réfugiés de revenir. Je suis tout à fait d'accord avec le représentant de la conférence épiscopale. Si quelqu'un doit convaincre les réfugiés de revenir. C'est le gouvernement burundais lui-même qui ne fait absolument rien pour ça, puisqu'il n'offre aucune ouverture politique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Un gouvernement burundais, Yann, qui a protesté parce que le Sénat belge a organisé cette semaine à Bruxelles un colloque sur le thème « Qu'est-ce qui empêche la communauté internationale d'agir et de protéger le peuple burundais ?» avec des représentants de la société civile burundaise en exil, et en présence d'ONG aussi.
Bon, là encore, c'est un énorme culot de la part du gouvernement burundais, de même que le gouvernement burundais a refusé qu'il y ait une commission d'enquête décidée par la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui aille enquêter sur place. Donc, on est dans un régime qui est en train de se refermer sur lui-même, avec, là encore, du côté des puissances régionales, des autres pays de la région, peu d'action, peu de détermination. Sent que, voilà, on laisse faire parce que personne n'a très envie d'avoir des ennuis avec le Burundi, voire éventuellement on a peur de relancer la guerre civile au Burundi, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a quand même eu un conflit très long et très meurtrier dans les années 90-2000 au Burundi. Je pense que tout le monde a peur de ça. Le gouvernement le sait et donc il est dans une certaine impunité.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Un bonjour à Nyang à Libreville. Il salue son père, Abderrahman, à Bamako. Un salut à Joël Guy à Cotonou, à Guy Sali à Dakar, à Siaka à Conakry, à Claire à Paris. Et bonjour enfin à Serge qui nous écoute au Burkina Faso depuis 10 ans. Continuez d'ailleurs à nous dire depuis quand vous écoutez votre rendez-vous du samedi matin.
Sept jours en Afrique.
Et nous partons maintenant, Yann Mince, pour la Côte d'Ivoire, où il y a peut-être du nouveau dans l'affaire de la disparition du journaliste Guy-André Kieffer. Un témoin saurait où il repose désormais. Et la justice doit maintenant tenir compte de cet élément nouveau. Abidjan, jeudi, Frédéric Gara.
Selon Ali Yeo, le procureur général près de la cour d'appel d'Abidjan, le juge d'instruction Koulibaly a bien été informé par son homologue français, Paco, de la volonté de celui-ci de se rendre à Abidjan, voyage visant à corroborer les déclarations d'un témoin qui saurait dans quelle propriété a été inhumé le corps de Guy-André Kieffer. Ali Yeo.
Si cet édifice a été identifié, il est évident que pour préserver les preuves de l'affaire, toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'y ait pas de dispersion.
Le lieu, en tout cas, a été identifié par le juge d'instruction Koulibaly.
Par le juge d'instruction français. Et nous attendons qu'il vienne, qu'il nous dise où est cet immeuble et nous allons nous mettre à sa disposition pour faire ce qu'il y a à faire.
Selon différentes sources, la commission rogatoire précise que les recherches doivent se faire en présence du juge d'instruction Cyril Paco et de gendarmes français, ce qui empêcherait d'éventuelles fouilles à l'initiative du juge d'instruction ivoirien, nous expliquons. Or, depuis l'audition, en mai dernier, d'un témoin qui pourrait être capital, rien ne bouge, ce qui fait naître la suspicion de la famille Kieffer, ce à quoi répond le procureur Ali Yeo.
Jamais la volonté des autorités ivoiriennes n'a été d'enterrer cette affaire. Chaque fois que nous avons un élément, nous exploitons ce que nous avons pour essayer de tirer au clair ce drame qui est survenu il y a 13 ans.
Les autorités ivoiriennes regrettent la frénésie qui entoure cette nouvelle information divulguée par un avocat de la famille. Une frénésie bien modeste au regard de l'impatience des proches qui attendent depuis bientôt 13 ans de connaître la vérité concernant l'affaire Kieffer.
Et partons enfin pour la Tunisie. Yann Mince, où la présence de troupes américaines et de drones dans le pays est confirmée désormais. La lutte contre l'organisation de l'État islamique en Libye l'explique. Tunisie. Jeudi, Jihan Bergawi.
Officiellement, 70 soldats américains sont actuellement sur le sol tunisien pour former des militaires, mais aussi pour commander des drones. Et des précisions fournies par Béji Kaïdé Sepsi, le président de la République, qui vient donc confirmer une rumeur qui circulait depuis des mois. Des drones de renseignements américains qui décollent du sol tunisien. Un secret de polichinelle s'amusent certains diplomates. Pourtant, les autorités tunisiennes s'échinaient à démentir l'information du Washington Post parue fin octobre. Selon ce journal américain, les États-Unis avaient secrètement étendu leur réseau mondial de bases de drones à l'Afrique du Nord, dont la Tunisie, pour mener des missions espionnes en Libye voisine. Avec ces révélations, BJK et les Sepsis risquent donc de relancer la polémique autour de la souveraineté nationale. Mais le président reste prudent, il ne précise pas de quelle base militaire décollent ces drones américains. Des drones qui, à la demande des autorités tunisiennes, ne sont pas armés. Mais selon le président, cette mesure est nécessaire pour éviter des infiltrations et des attaques de djihadistes.
Vous écoutez RFI, vous avez raison, et notamment une semaine d'actualité. Nous sommes en compagnie de Yann Mince, et je rappelle que Yann Mince a écrit aussi 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman, un livre publié aux éditions du Petit Matin. Je dis écrit aussi parce que vous écrivez également dans le magazine Alternative Économique, je le rappelle. Quelle drôle d'histoire décidément que cette affaire Guy-André Kieffer.
Oui, moi j'ai le sentiment que peut-être les déclarations de l'avocat de la famille visent à pousser à la fois peut-être la magistrature ivoirienne, mais aussi la magistrature française à accélérer ses investigations. C'est vrai qu'on peut être inquiet que s'il puisse y avoir la destruction de preuves, effectivement. Si ceux qui ont perpétré ça ont une idée de l'endroit où se trouverait le corps, si ça correspond à ce qu'a dit le témoin, j'espère que l'endroit est protégé et qu'on n'attend pas trop pour protéger les éventuelles preuves qui s'y trouvent.
Il y a un problème visiblement de coordination entre la justice française et la justice ivoirienne. Hein.
Je pense qu'il y a un problème de moyens dans la justice française aussi, hélas. Et je ne sais pas si c'est le manque de célérité du magistrat ou simplement le manque de moyens et le fait qu'il a plusieurs dossiers compliqués à suivre à la fois, ce qui ne m'étonnerait pas.
Alors parlons de la Tunisie maintenant et de la Libye ensuite, les deux étant liés. La présence de drones et de troupes américaines en Tunisie, visiblement, était un secret de Polichinelle.
Oui, c'est pas très étonnant. Alors je crois que ça a mis très en fureur l'Algérie, parce que l'Algérie a un jeu très très curieux. L'Algérie aimerait bien être une sorte de gendarme régional adoubé par les Américains, mais à condition de faire elle-même le travail.
Drôle effectivement de position, oui.
Voilà. Pour un régime qui, pendant longtemps, était un régime, comment dire, qui se voulait non aligné, anti-impérialiste, etc. Mais bon, maintenant, les Algériens veulent faire ça. Les Tunisiens, eux, il faudra se rappeler quand même que la Tunisie, c'est un pays extrêmement fragile. D'abord, c'est un pays qui est petit. C'est un pays dans lequel les dictateurs qui se sont succédés au pouvoir avant le régime démocratique n'ont pas soigné l'armée parce qu'ils avaient peur qu'elle se soulève contre eux. Je pense même à Bourguiba, en se disant ça, pas seulement à Ben Ali. Et donc, on a un pays qui est mal armé au sens propre du terme. Il n'est pas complètement étonnant qu'il fasse appel aux États-Unis. Le problème, c'est que faire appel aux États-Unis, c'est évidemment donner libre cours à tous ceux qui veulent dire que le régime est vendu à l'Occident, éventuellement à l'Occident chrétien ou croisé, comme on dit du côté des mouvements djihadistes. C'est toujours très compliqué. Quand on est faible, on a envie d'avoir un copain fort, et le copain fort vous discrédite auprès de votre propre population ou de vos ennemis. Donc c'est évidemment très compliqué. En même temps, je ne suis pas complètement surpris que les Tunisiens aient envie de faire tout ce qui est possible pour que le conflit libyen ne déborde pas sur leur sol, alors qu'il y a déjà eu des attentats, nombreux attentats en Tunisie, il faut le rappeler.
En tout cas, la lutte contre l'organisation d'État islamique en Libye est très discrète.
Elle est discrète, alors elle se passe beaucoup autour de Sirte, enfin dans Sirte même, oui. Aujourd'hui, puisqu'ils tiennent quelques poches de résistance dans Sirte et que les différentes forces qui s'opposent à elle, qui viennent essentiellement du gouvernement d'Union nationale de Tripoli, enfin, en tout cas de milices liées à ce gouvernement d'Union nationale, n'arrivent pas complètement à réduire ces quelques poches qui restent. Après, il y a la question que se pose un certain nombre d'observateurs, c'est de savoir si les djihadistes de l'État islamique qui sont à Sirte ne vont pas se disperser dans l'ensemble du pays, ce qui serait à la limite presque pire que de les avoir concentrés dans un endroit. Donc c'est toujours la même chose quand on envoie un coup de pied dans une fourmilière, les fourmis s'éparpillent, s'égayent et deviennent éventuellement plus dangereuses.
Alors dans ce livre, 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman, vous consacrez un chapitre à la Tunisie. Avec cette question, la Tunisie peut-elle devenir un modèle pour le monde arabe? Votre réponse est prudente, pour le moins.
Oui, parce que je ne crois pas beaucoup au modèle. C'est-à-dire qu'on nous a, pendant un certain temps, servi la Turquie comme modèle pour le monde arabe, à défaut d'être pour l'ensemble du monde musulman. Je ne crois pas. Ce qu'on peut, c'est tirer des enseignements de ce qui s'est passé en Tunisie. Et un des enseignements importants qui s'est passé en Tunisie, c'est qu'on a fait une constitution et qu'elle a été adoptée et que ça a permis l'élection d'autorités légitimes dans le cadre de cette constitution. Les Égyptiens s'y sont pris d'une autre façon et ça n'a pas fonctionné aussi bien, mais on ne peut pas comparer les situations, elles sont pas absolument comparables, ne serait-ce que parce que l'armée n'a jamais eu en Tunisie, ce que je disais tout à l'heure, le rôle qu'elle a eu en Égypte. Et en Égypte, c'est l'armée qui a repris le pouvoir après l'avoir concédé un certain temps sous la pression de la rue. Maintenant, elle l'a repris de la manière la plus forte et la plus brutale qui soit. Donc, je crois pas que la Tunisie puisse être un modèle. La Tunisie a aujourd'hui, à mon sens, plusieurs fragilités. Une fragilité importante et malheureusement irréductible à court terme, c'est que son économie est faible, qu'elle ne fabrique pas assez d'emplois. Or, un des problèmes essentiels des pays de la région, du Maghreb, pas seulement du Maghreb, mais notamment du Maghreb, c'est d'avoir de nombreux jeunes en Tunisie qui sont plutôt bien formés, diplômés, mais qui ne trouvent pas de travail et sûrement pas de travail à la hauteur de leurs qualifications, ce qui entraîne des frustrations. Et ça, c'est un problème difficile à résoudre à court terme. C'est quelque chose que on peut changer une constitution rapidement, assez rapidement, on peut la négocier. En revanche, transformer une économie, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus difficile.
Alors, le Canard Enchaîné de la semaine dernière soulignait qu'il y avait que les enquêtes sur les attentats du musée du Bardo piétinaient avec la libération de 6 complices des terroristes impliqués par un juge qui était manifestement proche des islamistes. Ça montre aussi la difficulté interne dans les rouages de l'État tunisien.
Ça montre l'État tunisien, il a à la fois des gens qui sont restés depuis le régime Ben Ali, et c'est une des inquiétudes d'un certain nombre de gens qui ont été victimes de la répression sous Ben Ali, que les mêmes policiers sont encore en responsabilité en un certain nombre d'endroits, au ministère de l'Intérieur. Et puis en même temps, il a fallu forcément remplacer une partie de ce qu'on voulait remplacer. Et les gens disponibles et formés, ça, dans certains cas, pouvaient être des islamistes, bien entendu. À mon sens, le problème n'est pas qu'un magistrat ait des convictions islamistes. Après tout, on ne demande pas aux magistrats en France quelles sont leurs convictions politiques aux uns et aux autres. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent s'abstraire de ces opinions politiques pour rendre la justice en fonction de la loi et non pas en fonction de ses convictions.
Merci Yann Mince du magazine Alternative Économique et auteur de 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman, publié aux éditions des Petits Matins. On va se retrouver à la fin de l'année.
Avec grand plaisir.
Dernière semaine de décembre et première semaine de janvier pour faire un récapitulatif de l'année 2016. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idées. Nous parlerons de l'influence que le philosophe Heidegger a exercée sur Hannah Arendt avec Emmanuel Faye, professeur de philosophie. Rendez-vous demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
International.